sur les 18 démos que tu as calées, on en a fait 8 et on a eu 0 client. Sur les démos que j'ai calées, jusqu'à maintenant, on en a fait une et boum, elle a converti.
Voilà.
Voilà, donc moi, j'ai 100% de conversion. Dans ce 11e épisode du journal de bord, on vous raconte comment on a perdu notre première cliente et comment on a essayé de rebondir. Vous écoutez le journal de bord de Lance-toi et code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours une histoire bien léchée, a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères, les petits choix du quotidien qui ont fait la différence.
Dans ces épisodes, on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mises en place. On vous donne les chiffres, un authentique build in public. À l'heure où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre SaaS. Et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi on peut le faire. Et on se mouille en faisant un build in public. On a passé le point de non-retour. Plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on surmonte notre premier churn. Eh ben écoute Thomas, la semaine dernière, on s'est quitté en disant aux auditeurs que ça y est, on était rentable, on avait nos trois clients,
trop
et
fort.
En plus, on a onboardé plusieurs de nos bêta-testeurs. Donc pendant la création du SaaS, en fait, avant le lancement, on avait onboardé plusieurs photographes en fait, qui étaient des bêta-testeurs avec qui on a co-construit la solution. Aujourd'hui, on en a onboardé plusieurs qui ont démarré en fait, leur abonnement à qui on a offert en fait, six mois gratuits.
Ouais, juste un truc sur ces bêta-testeurs, parce qu'on dit qu'on est trop fort, mais en fait, pas du tout. Parce que les bêta-testeurs qui sont les mecs qui sont censés avoir construit avec nous l'application, et bah ils l'utilisent pas, ils s'en battent les couilles.
Ouais, gros red flag là-dessus. On va voir dans le futur ce que ça donne, mais c'est bien, ça fait du contenu pour le building public, ça permet de montrer les choses qu'on essaye et qui ratent. Ça a beaucoup de valeur.
Exactement, grâce à ça on a un podcast. Voilà. On est aussi là pour vous dire quand on se plante.
Et ce qui est du coup étonnant, parce que c'est vrai que c'est ceux qui étaient le plus intéressés dès le début, qui ont passé du temps avec nous, qui ont investi alors qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils ont la solution à disposition en plus gratuitement, ils ne l'utilisent pas.
Ouais,
et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de pourquoi.
C'est peut-être parce que c'est gratuit, qui sait.
Ouais, peut-être.
Mais ouais, peut-être que c'était un peu des fous aussi, tu vois, qui se disaient « Ouais, ça peut être intéressant d'être là, je serais bien positionné une fois que c'est lancé et tout. » Au final, tu vois. Et puis aussi, ça c'est un autre truc qu'on a appris, c'est que je pense qu'on les a pas assez collés à la culotte.
Ouais.
Pardon l'expression, mais on aurait pu et on aurait dû, je pense, être beaucoup plus présent avec eux et leur parler beaucoup plus régulièrement qu'une fois toutes les deux semaines et faire une pause de deux mois quand on dev le truc. Enfin bref, il aurait fallu vraiment être là avec eux tout le temps. Et aussi certainement en avoir plus, parce que là on en avait quoi, 6. Quand un autre logiciel dans le même milieu que le nôtre, qui lui est un CRM, s'est lancé, eux ils avaient 50 personnes avec qui ils avaient co-construit le truc, des photographes qui suivaient le truc depuis le début, qui étaient entre guillemets impatients parce que la hype avait été travaillée. Et à la sortie, ils ont tous commencé à essayer de l'utiliser.
Ouais.
Donc, je pense que s'il y a un point d'apprentissage là-dessus, c'est ça. C'est de les coller plus.
Ouais, et d'en avoir plus.
Parce que de toute façon, il y en aura toujours qui churn.
Ouais.
Bref. Et donc, pour l'instant, on est à 6 utilisateurs, dont 3 payants. Parce que, comme l'a dit Nico, les bêtas ont 6 mois gratuits.
Chose qu'on refera pas d'ailleurs, je pense.
Ouais, je suis d'accord.
Si c'est, enfin, quand ce sera à refaire pour le prochain, on fera pas ça.
En fait, on a donné 6 mois gratuits, mais c'est par et c'est peut-être aussi pour la raison pour laquelle ils ont travaillé avec nous et derrière ils s'en fichent un peu, tu vois. Mais c'est parce que C'était peut-être trop facile et ça aurait peut-être été une meilleure façon de valider l'idée aussi. C'était que de dire, voilà, il n'y a pas 6 mois gratuits, vous avez peut-être un mois gratuit ou même rien du tout. Vous avez l'opportunité de travailler avec nous et de faire une solution qui vous correspond.
Ouais.
Mais moi, je pense qu'on a mis les 6 mois gratuits quand on y repense et qu'on s'auto-psychanalyse. C'était par peur.
Par peur. Ouais, carrément. Ouais.
Parce qu'on se disait, ouais, personne va vouloir notre truc. Ouais, on va donner 6 mois gratuits parce qu'ils vont nous donner leur temps et oh, on a peur de leur faire perdre leur temps et tout. En fait, on n'avait pas confiance en soi. Nous. Et du coup, on leur a donné 6 mois gratuits. En fait, c'est une connerie. Et donc, on ne le refera pas.
Je suis d'accord. Ok, ça a été le coup de l'apprentissage, c'est cool, on sait pour le prochain. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a ces trois-là, plus les bêta-testeurs qui peut-être le prendront en payant une fois qu'ils auront passé leur période gratuite. Et donc si on rappelle la roadmap, un peu les étapes qu'on s'était mis, l'idée c'était T plus un mois, donc un mois après le lancement, en gros être à 90€ de MRR, donc c'est-à-dire 3 clients, en gros ça veut dire être rentable. Comme on a commencé en octobre à T plus 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, ça veut dire au 1er janvier, 1000€ de MRR, donc à peu près 30 clients, ça représente à peu près un SMIC. Et un an après le lancement, donc octobre 2022, 10K de MRR, donc environ 300 clients. L'idée c'est qu'à 10 000€ de chiffre d'affaires, si on enlève les coûts, les taxes, les machins, les trucs, et qu'on divise en deux, on peut vivre à deux dessus, quoi.
Ouais, tranquillement, sans avoir changé notre train de vie exubérant.
Voilà.
Et donc voilà, là on a atteint notre premier objectif, on est content, on est trop fort. Boum, un mois, 3 clients, on est rentable. On perd plus de sous avec notre truc sur lequel on s'amuse, c'est vraiment un business. Et donc on était content, on a fêté ça et on s'est lancé pour atteindre notre deuxième objectif qui était, comme Nicolas dit, 1er janvier 2022. Avoir 1000€ de MRR, pardon. Ouais. C'est-à-dire entre 30 et 40 clients.
Ouais.
Et donc, on est parti là-dessus. Sauf que, et là, bam, tout va mal. Une de nos clientes nous envoie un email. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'était pas une cliente qui n'utilisait pas, qui s'était inscrite par erreur. En fait, j'en ai pas besoin. Non, notre cliente la plus active nous envoie un email pour mettre en pause son abonnement. Parce qu'en fait, elle sent qu'elle va avoir un creux d'activité et qu'elle n'aura plus besoin de notre logiciel pour les 2-3 mois à venir. Et là, bam, gros coup au moral. Elle est adorable, hein, dans son email. Son email était génial. Elle nous a donné plein de pistes pour améliorer le logiciel. Elle a un creux d'activité et nous, un de nos arguments de vente, c'est que vu que c'est un logiciel par abonnement, on peut le mettre en pause. Donc, c'est fair game. Voilà, on a mis son abonnement en pause et on est redescendu à deux
clients payants.
Deux clients payants, hein, c'est-à-dire on va faire un pas en arrière et on est retourné en dessous de notre seuil de rentabilité. Donc, notre premier churn. C'est mal parlé pour les 30
Et c'est marrant parce que quand on regardera au bout de très très longtemps, ça se trouve on aura eu une croissance en hockey stick et puis ce sera exponentiel machin et on le verra même pas. Mais aujourd'hui, on a perdu genre 30% de notre CA genre sur un c'est email.
Ça. C'est ça. Et en fait, quand tu regardes les graphes des mecs qui font ça depuis 3, 4, 5 ans, le truc, bam, il explose et tu vois pas au début. Mais en fait, il faut faire un gros zoom parce qu'au début, tu vois, ça augmente un petit peu et paf, ça repasse à zéro et c'est 3 mois à zéro. Ça. Et puis, bam, ça monte à 100 et puis, c'est à zéro. Enfin bref, des montagnes russes parce que tout est relatif par rapport à ce que tu as déjà. Et nous, vu qu'on n'a rien, ou on en avait 3, en perdre 1, c'est énorme. Bref, tout ça pour dire que, un petit coup au moral quand même, et qu'on s'est dit, on continue. Bref.
Donc on continue, il faut se reprendre, rechoper des clients, et on avance, on ne perd pas espoir pour l'objectif du 1er janvier. Et là, on tombe sur des leads. D'ailleurs, Thomas vient de faire des calculs intéressants sur les leads qu'on fait. On fait beaucoup de cold call, en fait, pour choper des démos, en fait. Et aujourd'hui, c'est comme ça.
Pause, pardon. Ouais. On en a parlé au dernier épisode des cold call.
Ouais.
Ouais, on a... Ok. Bon, c'est ouais. Oh, c'est... Oui, t'as raison. On revient. Tu pourras.
Voilà. Et je sais pas, est-ce que tu veux présenter les découvertes que t'as faites par rapport au call?
Oui, donc on a fait... Donc, pour rappel, dans le dernier épisode, on vous a dit qu'on avait scrappé les internets pour récupérer les numéros de téléphone de photographes qui rentraient dans notre cible, à qui on pensait on pourrait apporter de la valeur. Du coup, on a sorti une liste de 200, à peu près un peu plus de 200 numéros de téléphone, et du coup, on a commencé à les appeler un par un. Et là, au final, bon, quand tu appelles une personne, déjà, tu as un premier nœud dans ton arme, c'est deux premières options, c'est soit la personne répond, soit elle répond pas. Bon, si elle répond pas, tu rappelles plus tard. Si elle répond, ensuite, deux autres options. Soit elle est intéressée par ce que tu dis et tu cales une démo, soit elle n'est pas intéressée par ce que tu dis ou elle n'est pas qualifiée et boum, tu l'as perdu et tu mets pas intéressée et tu passes à la personne suivante.
Ouais.
Et donc, quand on regarde les appels qu'on a fait, Nico, jusqu'à maintenant, a dû faire t'as fait 42 emails, si je me souviens bien, 42 appels qui ont abouti. Donc, tu as eu au téléphone 42 personnes. Ouais. Moi, j'en ai eu 37 au téléphone. Cependant, là-dessus, toi, tu as calé 18 démos.
Ouais.
Quand moi, j'en ai calé 2.
Ok.
Donc, en fait, toi, tu as un taux de conversion de 43%. Et moi, j'ai un taux de conversion de 5%.
Ok.
Et donc, c'est assez drôle. Alors, soit... là, j'ai commencé à réfléchir. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? Donc, soit tu as un timbre de voix beaucoup plus sexy que le mien, mais ça, nos auditeurs seront d'accord avec moi pour dire que c'est
déjà
pas le cas.
Que c'est pas vrai.
Et l'autre hypothèse, c'est que... ou alors, t'es juste meilleur que moi pour convaincre les gens. Ou alors, c'est que on a un objectif différent et on fait nos cold calls différemment.
Ouais.
Moi, je pense que ça vient de là.
Oui.
Parce que la façon dont moi, je fais les cold calls... Enfin, moi, je pars avec l'objectif, pas forcément de caler une démo, mais de m'assurer que je cale des démos avec des gens avec qui je pense on a une chance de close. Parce que faire une démo, c'est passer une heure au téléphone, enfin, au moins une heure, et je veux que cette heure soit maximisée. Mais c'est pas forcément une bonne chose. Et ça, c'est autre chose. On n'en a pas parlé au début, parce que je pense que toi, tu as un objectif différent quand tu fais tes cold calls.
Ouais. Effectivement, et moi, quand je fais un...
Pourrais-tu élaborer, s'il te plaît?
Absolument, il est différent. En fait, quand j'appelle quelqu'un, l'idée, c'est de lui présenter... absolument, en fait, de lui faire une démo, sauf si vraiment je sais que ça n'a aucun intérêt, parce qu'il est ravi de comment ça fonctionne aujourd'hui ou parce que c'est pas du tout notre cible. Mais autrement, je lui propose quand même une démo. Déjà, un, parce que du coup, ça nous fait connaître. Deux, parce que on peut plus facilement avoir des recommandations, qu'il en parle autour de lui et qu'il nous présente ou qu'il nous file des contacts d'autres photographes. Et aussi parce que notre cible, c'est quand même beaucoup des personnes qui sont en transition dans la manière dont elles gèrent leur activité. Et que donc, c'est plus intéressant qu'elles nous connaissent avant de faire la transition qu'après, où ça peut être presque trop tard.
Oui.
Et d'ailleurs, justement, dans le livre Customer Centric Selling, il prend le scénario justement comme ça, de la colonne A, de la colonne B, de la colonne C. Et grosso modo, la colonne A, c'est celui qui est en pole position et qui va remporter le contrat, quoi. Et celui qui est colonne B, colonne C, c'est des compétiteurs qui ne vont pas remporter le contrat. Et souvent, on peut se tromper de savoir est-ce qu'on est colonne B, colonne C, colonne A. Et donc, typiquement, nous, par rapport à un photographe qui a besoin d'un logiciel comme le nôtre, c'est important qu'on soit positionné en premier. Parce que typiquement, dans le livre, il prend l'exemple de... imagine que tu es une entreprise qui t'appelle et qui te dise, oui, voilà, ou qui t'envoie un mail, qui te dise, je suis intéressé par produits comme le vôtre, je suis en train de me positionner dessus, est-ce que vous pouvez m'envoyer un cahier des charges, un devis, un appel d'offre, peu importe, qu'on voit si ça correspond à nos attentes et on revient vers vous, j'en ai besoin assez vite.
Il dit, là, ce qui se passe, c'est que tu te dis, putain, trop bien. Tu le mets dans ton pipeline en mode, lui, c'est un show. Là, on va sûrement pouvoir close. Tu reportes au manager que là, tu as un super coup. Tu fais le taf hyper vite. T'envoies ta propale et t'espères que tu vas close. Et en fait, ce qu'ils expliquent dans le livre, c'est que quand tu reçois des trucs comme ça, tu as absolument zéro chance de close. Parce que le scénario qui s'est passé de l'autre côté, c'est que, en fait, si la boîte, elle a déjà alloué des budgets pour une solution comme la tienne, c'est parce qu'elle s'est faite démarcher par une solution concurrente qui lui a vendu le truc, qui lui a fait comprendre qu'elle en avait besoin, qui s'est positionné. Le gars est convaincu qu'il en faut un. Il va voir son manager pour avoir les budgets. Le manager lui dit, mais c'est quoi les autres solutions? T'as des trucs de comparaison? Il dit, non, j'ai pas regardé les autres solutions. Il dit, bah, fais-moi un benchmark et je te fais les budgets. Et donc, du coup, pour justifier le fait qu'il prenne cette solution-là, il va contacter les concurrents, faire un benchmark hyper biaisé, et ça va juste être de la matière pour argumenter à son manager d'avoir les budgets et pouvoir prendre la solution qu'il les avait déjà contactés. Tout ça pour dire, et donc du coup, toi, tu reçois un email qui te dit « bah, merci, vous êtes arrivé second, merci pour votre réactivité, mais on va pas bosser avec vous ». Donc en fait, tout ça pour dire que être les premiers à les contacter et à leur proposer ce genre de solution, ça nous met en pole position pour le jour où ils font leur transition.
Oui, et je te rejoins là-dessus, et je pense que moi, la manière dont j'ai approché le truc est mauvaise, et qu'il va falloir, de toute façon, là, on va, vu qu'on s'en est rendu compte, moi, je vais me réajuster, parce que, pour deux raisons, je pense que ta manière de faire est meilleure, mais je mets un astérisque, elle est meilleure dans notre cas actuel. Elle ne le sera pas au fur et à mesure, mais aujourd'hui, elle est meilleure. Okay. Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure? Parce que, un, en effet, comme tu as dit, et là, je vais un peu répéter ce que tu as dit, mais voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie que les gens m'entendent, j'aime écouter ma propre voix. La première raison pour laquelle je pense que c'est meilleur, c'est parce qu'en effet, on est tout au début et dans un marché qui fonctionne par bouche à oreille. Donc le but, c'est de le montrer de manière qualitative et de créer des relations, même si infructueuses, avec un maximum de personnes.
Ouais.
Parce qu'elles vont rencontrer quelqu'un d'autre qui va leur parler de leurs problèmes. Ah tiens, je connais une solution, j'ai fait une démo récemment, tiens, tu devrais les contacter.
Mm.
Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, comme tu l'as dit, on vise, et les clients qu'on va avoir, c'est des clients en transition. Et donc, même si aujourd'hui, on n'est pas adapté pour eux, le jour où ils seront en transition, c'est à nous qu'ils vont penser.
Mm.
Et voilà. Donc, j'ai juste synthétisé ce que tu as dit. J'ai fait de la paraphrase. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et je suis d'accord sur ta manière de faire. Cependant, plus ça ira, moins ta manière de faire sera intéressante. Parce que, en fait, on perdra du temps sur des démos. Alors qu'on pourra le réinvestir dans autre chose.
Ouais, et cette création de awareness, il faudrait qu'elle soit faite beaucoup plus at scale, quoi.
Exactement. Ou même, tu vois, enfin ça dépend, hein, mais si on décide de lever le pied et de laisser le truc tourner un petit peu et de en fait maximiser, enfin minimiser le temps qu'on passe dessus parce qu'on veut faire un projet, etc. À ce moment-là, il faudra faire des démos que quand ça sera intéressant pour nous. Que quand on saura, voilà, ça c'est une démo qui vaut le coup.
Ouais.
Et donc à ce moment-là, on passera sur... parce que, en fait, la différence entre nos deux approches, je pense, en ayant lu ton script et en le comparant au mien, c'est que moi, en fait, nos scripts sont plus ou moins pareils, mais moi, je passe beaucoup de temps derrière à leur poser des questions sur comment ils travaillent. Et ensuite, je leur dis, bah, en fait, Lumina, c'est adapté aux photographes qui travaillent comme ça, et vous, vous ne semblez pas travailler comme ça.
Okay.
Ce qui fait que, du coup, derrière, ça fait beaucoup moins de démos. Mais mes démos convertissent, parce que sur les 18 démos que tu as calées, on en a fait 8, et on a eu 0 client. Sur les démos que j'ai calées, jusqu'à maintenant, on en a fait une, et boum, elle a converti.
Voilà.
Voilà, donc moi, et j'ai donc, 100% là, de conversion.
Voilà, sur un échantillon de 1.
De 9.
Ouais. Je pense que la moindre variance, aussi faible soit-elle, ça pourrait être ça, en fait.
Les chiffres ne mentent pas. Ouais.
Les hommes mentent pas les chiffres. Carice.
Ouais. Pour refermer cette parenthèse, on en revient à notre histoire. Bon, on a eu notre premier churn et on était en train de faire des cold calls. Et ces cold calls-là, comme vous pouvez le voir, n'étaient pas très fructueux. Ça nous donnait des démos, Mais les démos ne convertissaient pas et on était un peu triste. Churn, des démos qui convertissent pas, c'est la Hesse.
Ouais.
Pardon, je m'excuse.
Et donc là, pour le coup, c'est toi qui fais un cold call. Qui, en général, ça prend 2 minutes. C'est bonjour, tu dégroules ton speech et ensuite tu cales une date.
Ah ouais, là,
et là tu
incroyable.
M'as dit, ça avait duré quoi, une heure
ah
quasiment.
Ah ouais, 45 minutes. 45 minutes. Ouais. J'ai passé 45 minutes sur le call. C'était
45
incroyable.
Minutes d'appel juste pour caler une date, quoi. Déjà, le truc qui sent que tu vas passer une plombe avec la personne sans même être sûr de close.
C'est une personne très adorable, très agréable, ouais, avec qui on a eu une discussion super. C'est vrai qu'elle a été longue. Mais du coup, la personne, enfin, ça n'a pas été complètement, disons, une perte de temps, ni pour elle, ni pour moi, puisqu'on a discuté sur sa façon de travailler et aussi sur les avantages d'une approche comme la nôtre sur celle de notre concurrent. Aussi sur pourquoi est-ce que ces solutions-là sont intéressantes pour ce type de personnes. Et aussi, ça a permis de faire pas mal de boulot en amont de la démo.
Mmh.
Alors, j'ai bien compris la façon dont ils travaillaient, ce qui a permis derrière d'orienter la démo d'une façon ou d'une autre. On a aussi appris ses contraintes. Ici, il fallait que le logiciel puisse être utilisé sur une Smart TV parce que l'autre ne pouvait pas. Donc ça, c'était un gros plus si notre logiciel pouvait. Et donc, tout ça, c'est des informations qu'on a eues en avance qui étaient très utiles, soit d'un point de vue macro, parce que ça nous a permis d'ajuster notre positionnement, ou même d'un point de vue micro, on le verra plus tard, dans la démo, pendant les démos, pour faire une démo beaucoup plus personnalisée.
Ouais. Sauf que du coup, on n'est quand même pas sûr de la close. On sait que du coup, une démo, ça prend du temps. Et on se demande
on a déjà passé
si ça
45 minutes.
De passer avec elle, voilà.
On a déjà passé 45 minutes. On voit que la démo, je pense qu'elle va durer longtemps, vu qu'on a passé 45 minutes, juste sur le cold call. Et on se dit, pour l'instant, on a un retour sur temps investi en démo assez faible. Ouais. Donc on avait un peu peur que ça va le coup. Bon, c'est pas grave.
Donc on va faire do things that don't scale Paul Graham, fondateur de Y Combinator. Pour l'instant, on peut pas se permettre de refuser des clients, donc on va y passer du temps, on va les chercher à la main, on va faire ça tous les deux et on va essayer de signer des clients et de continuer à avancer.
Et en fait, et ça, je réouvre la parenthèse qu'on avait fermée tout à l'heure. En fait, c'est exactement la raison pour laquelle il vaut mieux prendre ton approche, Nico, sur les cold calls, parce que le but n'est pas d'optimiser les cold calls derrière. Le but,
ouais,
c'est de faire des choses, de choper des clients.
Ouais.
Et donc aujourd'hui, c'est avoir le plus de démos possible. Ensuite, c'est convertir le plus de démos possible pour apprendre pendant qu'on fait. Et ensuite, une fois que ça tourne, optimiser et mettre à l'échelle, entre guillemets.
Ouais.
Et donc, vu qu'on allait chercher à la main, là, on était prêt à passer beaucoup de temps et à investir beaucoup de temps et d'énergie dans l'acquisition de cette cliente, potentiellement. Pendant ce temps-là, Nico cale une démo avec un autre prospect qui nous a pris aussi pas mal de temps.
Ouais. Et d'ailleurs, là, ça va être un point intéressant pour faire un peu de théorie sur justement la théorie versus la pratique. Parce que j'avais rappelé il n'y a pas longtemps donc, Tom de Pixelmi, qui était venu sur le podcast, et qui m'avait dit que, en fait, globalement, quelqu'un qu'on ne close pas sur le coup, on le close jamais, on passe des semaines à le courir après et ça ne marche pas. Et ça s'était avéré vrai en fait pour le tout premier gars qu'on avait dû refuser parce que on n'avait pas encore développé le module de paiement et donc on avait dû refuser notre premier client. Finalement, une fois que le module de paiement a été mis en place, je lui ai couru après pendant plusieurs semaines et on n'a jamais réussi à lui faire prendre un abonnement. Il a jamais pris l'abonnement. Et donc vient cette démo, quelqu'un qui reste 1h40 en démo, qui pose plein de questions, qui a l'air hyper intéressé, qui me dit c'est exactement ce que je cherche, mais j'ai pour principe de jamais prendre une décision d'achat sur le coup, je me laisse toujours quelques jours, mais c'est 95% sûr que lundi, on s'appelle et je le prends, quoi. Moi, je lui dis, bah, ok, très bien. Je doute un peu, vu ce que m'a dit Tom, mais là, vraiment, quand même, quoi, il y a tous les signes. Et donc...
Et moi, ouais. Je suis quelqu'un d'optimiste, je lui dis, mais t'inquiète, là, c'est sûr, on le close. Tout ça, tu vois, moi, j'y crois pas, ce que nous disent les autres.
Et du coup, c'est vraiment une vraie question de, mais finalement, qu'est-ce qu'on croit, quoi ? Est-ce qu'on croit la théorie ? Est-ce que, finalement, la théorie, c'est beau, mais bon, dans la pratique, il y, y a ce qu'on fait.
Ah, c'était beau comme phrase.
Lui dis, et donc, je lui dis, bah, ok, très bien, on se voit lundi. Et on se quitte là-dessus. Et on vous dira à la fin de l'épisode ce qui s'est passé le, ce lundi-là.
Ouais. Bon, donc ça, c'était une petite, petite histoire sur le côté. Pendant que moi, j'étais en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait mettre Lumina sur une télé. J'étais en train de faire des tests sur ma propre télé pour voir si notre logiciel pouvait être utilisé dessus. Ouais. Nicolas était en train de passer son temps à faire des démos avec, avec ce client potentiel-là. Et donc, on arrive à notre démo qui allait être assez complexe avec... avec la photographe dont on, dont on a parlé précédemment, avec qui on avait passé beaucoup de temps en cold call. On arrive et on y passe bien deux heures, si ce n'est plus. Ouais. À tel point qu'on a dû, vous savez, on n'avait pas, on a payé d'ailleurs pour Google.
Non,
on a un compte d'essai, enfin un compte normal, quoi, gratuit, ouais. Google Meet. Et en fait, sur les réunions de groupe, Google Meet, au bout d'une heure, il coupe. Il ne t'autorise pas à avoir une réunion de plus d'une heure.
Ouais.
Et donc là, on a, ça a coupé, donc on a dû revenir. Oh, c'est déjà, ça, ça fout le stress parce qu'on se dit, bon, bah, on va perdre la vente à cause de ça. C'est arrivé une deuxième fois parce qu'on est resté plus de deux heures au téléphone. Bref, ouais. Donc c'était génial. Mais donc, la démo dure assez longtemps avec cette photographe. Et au début, c'était marrant, ça commence et elle, essaie, elle était en... en FaceTime sur son téléphone et essayait de mettre Lumina sur la télé pour faire la démo sur la télé directement. Sauf que là, bam, premier obstacle, ça marche pas sur sa télé.
Ouais.
Parce que sa télé est en train de se mettre à jour, que ça fonctionne pas, ça veille longtemps, bref. C'était pas même notre logiciel qui marchait pas, c'était sa télé, son navigateur était pas à jour, bref. Bon, elle s'adapte. Génial. Bon, premier point positif. Merci à elle. Elle passe sur son ordinateur et on commence à faire la démo de manière assez classique sur son ordinateur. Et elle fait beaucoup on voit qu'elle fait beaucoup d'efforts pour que la démo se déroule bien, que de son côté et que de son côté, en fait, elle est très investie dedans, ce qui est un très bon signe. Nous, on est très contents. Par contre, ce qui est drôle, c'est qu'en plein moment... En plein milieu de la séance de démo, à un moment, elle se lève, elle va faire un truc, et puis ensuite, il y a une cliente qui vient récupérer des trucs, et du coup, machin. Et nous, on est là, on attend. On fait des trucs à côté. Bref, c'était assez drôle. Pendant un moment, on était morts de rire, on sait pas pourquoi. Honnêtement, je me souviens plus pourquoi. Mais ça se passe très, très bien. Donc, on arrive à la fin, et donc, sachez qu'on a toujours pas testé son truc, notre logiciel sur sa télé.
Ouais.
Et là, arrive la fin de la démo et nous dit « C'est super les garçons, comment on fait alors ?»
Donc là, grosso modo, c'est bon, on a fait la vente, c'est la fête. On lui dit « Bah voilà, là, moi, je vais désactiver l'option compte de démo et puis vous allez arriver sur la page de checkout, choisissez votre abonnement, machin, tout ça. » Et là, oui, mais... Aïe, aïe, aïe. Elle nous dit qu'elle veut commencer son abonnement le premier du mois parce que plus simple d'un point de vue comptable, machin truc. Et donc là, on doute vraiment, quoi, parce que c'est
Exactement. Deuxième exemple de « Ah, tiens, tu te souviens de ce qu'il disait ?» On entend Tom en dire « Ouais, c'est mort, si tu les closes pas direct, c'est mort. »
Et donc du coup, on se dit « Putain, ce serait con quand même de la laisser passer, quoi. » Donc, compliqué. Et en même temps, je dirais que c'est pas exactement pareil que l'autre gars, parce que c'est pas vraiment une objection, c'est plus que c'est sa timeline, en fait. Et ça, c'est un autre truc qu'on a lu dans les bouquins qu'on lit en ce moment, c'est la timeline du client est hyper intéressante. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de point théorique. Comment t'expliquerais la différence entre une objection et une timeline, justement?
Pour moi, les deux sont, entre guillemets, une objection. Mais je vois ce que tu veux dire. Comment savoir si l'objection qu'on a en face, c'est une vraie objection temporelle? C'est-à-dire, ouais. Désolé les gars, mais là, ce n'est pas le bon moment pour moi. Je le ferai dans une semaine ou deux semaines, machin. Versus ouais. Une objection temporelle, mais plus une sorte d'excuse. Parce que la personne ouais. n'a pas envie de dire non. Ouais, donc, elle invente une excuse et ensuite, en fait, elle tire le truc dans le temps et au final, ça ne se fait jamais.
Ouais, par exemple, là, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le rentabiliser, donc je préfère attendre un peu. Et là, exactement. On pourrait trouver quelque chose pour négocier et essayer de faire la vente versus quelque chose où ce n'est pas une histoire de négociation. De toute façon, elle veut ou il veut le prendre. C'est juste pas maintenant et ce n'est pas négociable. Quoi.
Et c'est une bonne question. Je sais, là, aujourd'hui, même d'expérience, je ne peux pas dire parce que pas assez ouais. d'expérience. Mais okay. mon intuition et les bouquins que j'ai lus, les personnes que j'ai écoutées, sur la base de tout ça, je me dis, il y a deux choses, et non trois, deux, j'aimerais bien que ce soit trois, mais c'est que deux, qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on a une timeline précise, un calendrier précis. Là, c'est pas bon pour moi parce que X, Y, Z. Mm-hmm. Par contre, le X du mois suivant, c'est bon, on y va, on set up quelque chose.
Ok.
Versus quelque chose de flou. En fait, dans le cas où c'est flou, c'est pas le bon moment, rappelez-moi dans 2-3 mois. Là, pour moi, c'est mort. Je pense que c'est simplement quelqu'un qui est pas prêt à acheter et qui veut pas dire non.
Ok.
Le deuxième élément qui me ferait dire que c'est en effet quelque chose d'intéressant, c'est. Et ça, c'est un peu dur à dire, mais c'est une question. Enfin, c'est un peu une question de feeling sur est-ce que la personne était vraiment intéressée et mais c'est plus dur à estimer et à et c'est plus facile à fausser. Mais est-ce que la personne est vraiment intéressée, elle est vraiment à fond, elle s'investit, est-ce qu'elle a mis de l'énergie, est-ce qu'on voit qu'elle a même avant même d'avoir mis de l'argent, qu'elle a payé d'une certaine manière, soit avec son ouais. temps, soit avec de la réputation, on le répète souvent, hein, mais il y a trois manières de payer pour quelque chose, avec son temps, avec de l'argent ou avec sa réputation, c'est-à-dire on met en risque sa réputation puisqu'on le partage aux autres.
Ouais.
Et donc, si la personne a déjà payé, c'est les plus à même, je pense, derrière que ce soit une objection, une vraie contrainte plutôt qu'une objection un peu caché. Donc voilà.
Ok, on part sur cette hypothèse et on va voir, on verra.
Après, je suis en train de lire un bouquin assez intéressant dont je ne me souviens plus le nom. Je crois que c'est Lève-toi et vent ou un truc du genre. Qui donne des petites techniques assez intéressantes, notamment au niveau je pense qu'un truc qu'on peut essayer, c'est au niveau de cette objection. Quand on reçoit un truc de timeline où la personne est un peu floue, on dit ça a l'air un peu flou, est-ce que vous êtes sûr? Enfin, je ne sais pas si vous avez... Pour moi, vous n'avez pas l'air sûr de vouloir ce logiciel-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on fasse une démo? On n'a pas envie de vous faire perdre notre temps. Ouais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on vous recontacte? Et là, on a une vraie... Là, je pense que si on dit ça, on aura une vraie réponse un peu viscérale. Parce que la personne sera un peu choquée qu'on ait demandé ça. C'est ce qu'il explique dedans. Et du coup, on aura une réponse viscérale. Et s'ils disent non, en fait, non, vous avez raison, ou si elle hésite, elle est un peu machin, un peu sur ses gardes, c'est mort. Par contre, s'il dit non, pareil, je suis vraiment intéressé, vraiment, contactez-moi dans 2 mois. Là, on se dit, voilà, je pense que c'est un bon test à mettre en place.
Ouais, ça marche, mais on fera ça à l'occasion.
Voilà, c'était le petit point théorique.
Okay.
Pour en revenir à notre histoire, qu'on n'arrête pas de quitter. Donc elle nous dit qu'elle veut commencer le premier du mois et on commence à douter, mais bon, elle nous a et là ça passe un peu bêtesse parce qu'elle était à fond, elle a investi beaucoup de temps et elle a donné une date précise, je veux commencer le 1er décembre, c'est parti, voilà. Donc le 1er décembre on met une date, on cale ensemble, très bien, le 1er décembre on s'appelle à telle heure pour lancer son abonnement.
Sauf qu'en tout temps, il va falloir quand même qu'on résolve son problème de télé.
Pour l'instant, il n'y avait pas encore de problème de télé. Là, pour l'instant, le problème, c'était vraiment juste la télé qui se mettait à jour. Donc, elle ne voulait pas attendre, on a fait la démo sans. Mais on finit la démo, et genre une heure après, je reçois un SMS. Et j'ai... Là, à la fin de la démo, j'étais content. Ouais, go, let's go, client. Et là, bam, une heure après, mon vrai SMS. Ah ouais, j'ai essayé de me... J'arrive sur votre site, ça marche et tout. Par contre, quand j'appuie sur se connecter, eh ben, ça marche pas, ça me donne une page blanche. Et j'étais, oh merde, non. Parce que si ça marchait pas sur sa télé, bah, une des... En fait, la raison pour laquelle elle nous choisissait, nous et pas notre concurrent, partait à la poubelle. C'était mort. Donc là, je suis en train de paniquer, je lui demande c'est quoi votre télé, machin. Je suis en train de regarder et tout. Nicolas, il essaye. Enfin, plus ça va dans la semaine, Nicolas, il essaye sur sa télé. Moi, je réessaye sur la mienne. Je lis des tutos en ligne sur la Philips, machin, sur comment est-ce que. Des problèmes et tout. Enfin, bref. Et truc drôle d'ailleurs, elle nous dit ah ouais, d'ailleurs, c'est. Ouais, ma télé, elle est nulle, parce que je l'appelle à un moment. Ouais, ma télé est nulle, j'arrive même pas. J'ai la même chez moi, j'arrive même pas à voir MyCanal dessus. C'est parce que. Je sais plus pourquoi, mais j'arrive pas à avoir MyCanal. Bref, je suis obligé d'utiliser mon ordinateur et que je l'ai connecté à ma télé pour utiliser MyCanal. Bref, c'est vraiment une télé nulle.
Donc pour l'instant, on a déjà investi vraiment du temps parce qu'on a fait une démo de 2 heures, puis ça va 45 minutes d'appel, plus on fait des recherches sur son truc et tout. Et on va encore s'appeler justement pour faire cette ultime setup. Enfin, c'est terrible quoi. Et on n'a encore pas close quoi.
Ouais, et on était à deux doigts. J'étais à deux doigts d'aller chez Boulanger. Je suis pas allé parce que j'avais pas eu le temps, mais d'aller chez Boulanger et tester, trouver sa télé chez Boulanger et tester au magasin. Mm. Et le pire, c'est que chez nous, tout marchait quoi.
Ouais. Donc, finalement, on se dit qu'on va essayer de voir en live avec elle. Donc,
ça, c'était incroyable. Ça.
Donc, finalement, je l'appelle. Et on s'appelle sur Google Meet avec son téléphone et elle me montre son écran pour son écran de télé pour que je puisse voir un peu avec elle qu'on essaye des choses et que, surtout que je puisse voir visuellement ce qui se passe, ce qui s'affiche et comment ça fonctionne. Déjà, au bout de 2 minutes, elle me dit ah j'ai plus de batterie puis j'ai pas pris mon chargeur donc rappelle-moi sur le fixe.
Alors, là, je vous dis ce qui se passe dans la tête de Nico. Le quoi le fixe. C'est quoi un fixe? Mais il n'y a pas de fixe. On n'est pas en train de développer. Là. Je ne vais pas push un truc sur GitHub pour un fixe. Enfin, qu'est-ce qu'il me parle? Donc, il fait des recherches sur Google. C'est quoi un fixe téléphone, machin? Et il comprend qu'il faut qu'il l'appelle sur un appareil téléphone fixe. Il se dit, oh là là, mais je fais comment? Parce que lui, à part l'application Messenger, il connaît rien. il s'est pas appelé en fait sur un téléphone.
C'est que j'utilise même pas l'application téléphone de mon téléphone en fait. Donc bon, obligé de l'appeler sur le fixe. Et là, c'est la catastrophe quoi. Ça fait 2 minutes qu'on s'appelle et maintenant il va falloir que j'appelle sur le fixe. Je vois rien, je comprends rien ce qu'elle me raconte. Ça va être hyper compliqué de résoudre son problème quoi. Donc, je lui explique. Ok, bon, je pense que ça marche pas parce que à cause de notre navigateur. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller sur le Play Store et vous allez installer Chrome. Ça fait trop d'informations. Donc, on recommence. Ok, d'abord le Play Store. On va sur le Play Store. Il faut chercher dans les applications, le machin. Est-ce que c'est Google Play? C'est pas Google Play Store? C'est Google Play ou Play Store? Bref, au bout de 15 minutes, ça y est, on arrive à l'ouvrir. Elle arrive, elle voit toutes les applications, YouTube, machin, truc, MyCanal. Et là, c'est bon, je l'ai perdu. Ah, super, bah du coup, il y a MyCanal. Oh, je vais pouvoir regarder MyCanal. Ah, bah merci Thomas. Je dis, super, on n'est pas du tout là pour ça. Puis moi, c'est Nicolas. Ravi que vous puissiez voir MyCanal. Est-ce que, par contre, vous pourriez chercher quand même s'il n'y avait pas une barre de recherche, quoi? Oui, d'accord. Ok, bon. Super, finalement, on arrive à la barre de recherche. Ok, maintenant, il faut que vous écriviez Chrome. D'accord, alors, Chrome. Ah, super, j'ai plein de trucs Google. Super, qu'est-ce que vous avez? Google Search, Google machin, Google Wallpaper. Il n'y a pas Chrome. Ok, là, ça commence à être compliqué. On a cherché, il n'y a pas Chrome. J'avais fait des recherches et j'avais vu qu'en fait, si cette Smart TV qui tourne sur Android a un compte Google associé et que sur un ordinateur, il y a le même compte Google associé à un Google Chrome, on peut télécharger des applications depuis le PC. Donc je lui dis, ok, on va faire un truc, vous allez aller sur votre Mac, Je vais vous envoyer un lien et vous allez télécharger Chrome sur votre télé depuis votre ordi. Ça fait trop d'informations. On recommence. Je dis ok. Vous allez sur votre ordinateur. Juste ça. Ok, j'y suis. Super. Je vous envoie un mail. D'accord. Ok, elle ouvre. Elle trouve. Super. Elle voit bien le bouton installé. Super. Installé sur mon Android TV. Super. Là, on y est. Version non compatible. Ok. Il n'y a pas Chrome. Impeccable. Bon, là, je suis résilient. Je me dis, on va trouver des solutions. Ça va le faire. Bon, il n'y a pas Chrome. Impeccable. Si, je sais, c'est une Smart TV, c'est Android. On peut cast l'écran du Mac sur l'Apple TV. En plus, c'est génial parce qu'elle a déjà essayé Lumina sur son Mac et ça marche. Ok, donc on va cast depuis le Mac. Elle le fait, je donne les instructions, elle le fait. Elle me dit, ah super, je vois mon écran. Je dis, bah, trop bien, ça y est, on a réussi. Elle me dit, par contre, mon clavier et ma souris, ils sont filaires. Je ne peux pas les amener dans le salon de projection. Ok, donc ça marche pas, c'est pas une solution. Ok, on va essayer autre chose. On va le faire depuis l'iPad. Donc l'iPad, elle peut le déplacer partout, elle est dans le salon de projection, c'est nickel. Elle le caste, ça marche, c'est nickel, je vois, en plus je peux tout contrôler. Super, on peut pas faire de drag and drop depuis un appareil tactile. Donc tout l'éditeur, c'est mort. Donc c'est pas une solution.
De faire du drag and drop aussi. Oh là là. En fait c'est notre ingénieur, c'est un PD. Hein.
Je lui dis, ok, allez, on lâche pas, on va trouver. On va essayer d'installer Firefox. Elle retourne sur la Smart TV, il n'y a pas Firefox. Ok, on va essayer juste de chercher browser, de chercher le navigateur. Elle trouve Neo Browser. Ok, je regarde sur Internet, c'est un scam payant. Ok, elle me dit qu'elle a Open Browser. Je regarde, ça a l'air bien, vu les reviews, nickel. Elle l'installe, elle le lance, et là, amen, ça fonctionne. Oh là là, j'étais au bout. Je crois que vraiment, c'était... Après ça, j'avais plus d'idées. Je savais plus.
Bah si, t'allais dans le code et tu changeais, et au lieu de drag and drop, tu faisais un clic.
Ouais. Ça va, on va faire une mise à jour pour ça.
Ah bah, do things that don't scale, en gros.
Ouais, c'est clair.
Bref.
Donc, après cette lutte incroyable, finalement, elle peut l'utiliser, elle est ravie. Et elle, on se dit, bon, on se rappelle le 1er décembre pour commencer l'abonnement, c'est nickel.
Fabuleux. Ouais. J'ouvre une parenthèse là.
Ouais.
Ce qui vient d'arriver là, c'est assez intéressant. Et ça, c'est une super leçon de design. Je sais que ça n'a pas l'air, je sais que c'était douloureux. Mais ça me rappelle un de mes cours de design que j'ai eu à Berkeley. Oui, un mec, à un moment, il est venu, il a fait un exercice un peu à la con. Il a dit, bon, bah, devant moi, j'ai du pain, du beurre de cacahuète et un couteau. Je veux que quelqu'un me donne des instructions pour faire un sandwich au beurre de cacahuète. Et tout le monde commençait. Au début, tu donnes des instructions hyper macro. Mmh. Et le mec, ce qu'il faisait, il jouait un peu au con. Et il montrait que, il donnait une instruction. Il disait, par exemple, prends le couteau et mets du beurre de cacahuète dessus. Et donc, il prenait le couteau, déjà, il le prenait par la lame, et il mettait le pot de beurre de cacahuète sur le couteau. Ouais. Bref. Donc, c'était assez intéressant, et ça nous force, c'était pour nous apprendre à réfléchir jusqu'au bout et essayer de donner des instructions les plus claires possibles.
Ouais.
Et c'est pareil dans le design, il faut que, en fait, ce soit limpide pour que la personne en face, quand tu l'as au téléphone, que tu vois rien, et que tu as la personne de l'autre côté qui fait des trucs, tu ne sais pas ce qu'elle fait, que tu puisses l'amener au but le plus facilement possible. Et c'est pareil, s'applique dans mon métier. À un moment, on avait des consultants en Inde, donc déjà barrière de langue, parce que l'anglais, ce n'est pas notre langue native à tous les deux, parce que ce n'était pas des personnes qui avaient grandi avec la langue locale et qui avait appris l'anglais à l'école. Bref, tout ça. Et en plus, pas habitué aux mêmes méthodes de travail, pas habitué à la même qualité de travail, bref. Et donc, il fallait expliquer les consignes et ce qu'on leur demandait vraiment ultra minutieusement. Mmh. Et il fallait penser à tous les scénarios possibles et imaginables. Et donc là, c'est assez intéressant. Et donc, je referme la parenthèse en disant que ce genre d'exercice, en fait, ça montre l'importance d'une communication super claire. Tu disais... bon, trop d'informations, et ben exactement, il faut faire étape par étape, de petit pas par petit pas. Et ça, ça s'oublie hyper facilement que les personnes n'ont peut-être pas les mêmes compétences, la même expérience, le même vécu que nous, de la même manière qu'on n'a pas le même que eux. Et donc, si par exemple, elle me donnait un appareil photo aujourd'hui et qu'elle commençait à m'expliquer, si elle ne me donne pas les instructions étape par étape exactement, bah, tu tournes la molette de 2 sur le petit truc qui ressemble à ça, elle me dit, au lieu de ça, elle me dit, tu mets le mode APX, tu vois, aucune idée. Bref. Donc tout ça, je referme ma parenthèse en disant que c'est important cette communication ultra précise, notamment quand on donne des instructions.
Ouais.
Bref, revenons-en à notre histoire, parce qu'on n'arrête pas de faire des parenthèses aujourd'hui. Elle nous dit, très bien, le 1er décembre, boum, on se fait un appel, on cale, elle met sa carte, génial, c'est un client payant en plus, elle a l'air super contente. Donc, client qui, si elle est contente quand elle l'utilise, potentiellement fera du bouche à oreille, génial. Mmh.
Et si en plus ça s'était passé comme ça, ça aurait été beau. Non, plus même pas. Roller coaster. On se dit 1er décembre. Au final, 1er décembre, elle se pointe pas. Elle nous dit, ah, j'ai oublié, je suis pas dispo. Ah, merde. Mais vous inquiétez pas, je me débrouille cet après-midi, je prends l'abonnement. Et là, on se dit, mais c'est mort, quoi, ça y est. On s'est encore fait avoir avec tout le temps qu'on a passé, on est mort. Et finalement, dans l'après-midi, elle a déclenché son abonnement. Elle a pris un plan annuel. Donc,
voilà. Parce que dans tout ça, l'autre, que Nico, chez qui Nico avait fait la démo, qui était hyper chaud, pour qui c'était la solution rêvée, bah, pas pris l'abonnement. Nico lui a couru après, l'appel s'est jamais fait, et au final, Tom de Pixelmi avait raison.
Et donc du coup, là, c'est intéressant, parce que quelle est finalement la différence entre elle, qui finalement l'a même pris sans nous, et qui nous a dit finalement on peut pas s'appeler, c'est pas grave, et qui a quand même pris un plan annuel, et lui qui finalement ensuite m'a esquivé et que j'ai jamais réussi à avoir, quoi.
Ouais, bonne question. On sait pas, on n'a pas la réponse. Si vous avez la réponse, laissez-nous un tweet. On est sur Twitter ou sur Instagram et autres, mais vous pouvez essayer de répondre. On mettra la meilleure réponse dans le jingle du prochain épisode. Ou pas, je sais pas, ça rendra très bien.
Et en tout cas, c'est un truc intéressant parce que on est tombé sur le blog du coup d'un gars qui fait du building public et qui raconte son histoire, qui est d'ailleurs hyper intéressante. Et quand on voit la timeline, lui maintenant il fait ça depuis quasiment 5-6 ans. Et quand on voit la timeline de tous les trucs qu'il a essayé, raté, machin, et tout ce qu'il a appris, en fait on se rend compte que là, la maturité entre guillemets qu'on a avec Lumina, c'est déjà la maturité que lui il a acquis au bout de 2 ans, quoi.
Ouais, il avait, parce que ça fait un peu plus... Ça fait quoi 4-5 ans maintenant 4 ans Mais oui, c'est ça. On arrive au niveau que lui a mis 2 ans à atteindre et nous, on l'a atteint en... Bon, si on prend là où on a commencé à un peu chercher, on l'a atteint en 6 mois, quoi.
Ouais. Donc, ce qu'on en apprend, c'est que, la pratique, c'est hyper important. Parce que du coup, ça nous fait vraiment comprendre des choses qu'on a appris. Et c'est quand même pas franchement la même chose que de le savoir et de l'avoir compris.
Le meilleur exemple, c'est que j'ai réouvert un bouquin que j'avais lu sur comment monter une startup.
Ouais.
Et toutes les étapes que le mec a dit, nous, on les a faites de nous-mêmes. Et en lisant le truc, je me dis, ah, mais c'est pour ça qu'il avait dit ça. Ah, mais on a fait exactement ça. Ah, mais c'est exactement là où on est. Bref,
il y a une autre compréhension, quoi.
Exactement, la pratique. Ouais. Et moi, je me dis, oh, non, la théorie, c'est suffisant et tout. Mais en fait, pas du tout. Théorie, c'est important, parce que ça, on y reviendra. Mais la pratique, c'est ultra important, parce que ça permet de comprendre la théorie qu'on a appris avant.
Et en même temps, la théorie, ça garde vachement de valeur, parce qu'autrement, s'il faut qu'on refasse toutes les erreurs nous-mêmes pour les apprendre, et qu'on ne les apprend pas à l'avance dans les bouquins, on perd un temps infini, quoi.
Exactement.
Donc, la pratique, c'est hyper important. 2, la théorie, ça a quand même de la valeur. Et en fait, il faut être dans un équilibre d'apprentissage essai constant. Et 3, est-ce que vous savez pourquoi on fait toujours des listes de 3 ?
Enfin, pourquoi est-ce que les consultants en stratégie font des listes de 3 ? C'est parce que c'est des bros, tu vois. Faire du conseil en stratégie, c'est un métier de bro à l'américaine. Et qu'en fait, Jésus, il a attendu 3 jours avant de revenir sur Terre. Et Jésus, c'est l'ultimate bro. Et du coup, toutes tes listes et tous tes points et tous tes arguments doivent être construits en 3 sous-boulettes. Et chaque sous-boulette décomposée en 3 sous-boulettes. Et chaque sous-sous-boulette en 3 sous-boulettes. Voilà. Et tout ça, ça remonte à il y a 2000 ans. Jésus a attendu 3 jours. Et vu que c'est l'ultimate bro, on fait des points en trois. Voilà, sur ce, un épisode plein d'apprentissage. Merci d'avoir écouté Lance-toi et Code. C'est toujours un plaisir de poster ces épisodes. Vous êtes beaucoup à nous suivre. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur votre plateforme, la plateforme de votre choix.
Spotify, Apple Podcast.
Spotify, Apple Podcast et autres. Laissez-nous une review si vous êtes sur Apple Podcast. 5 étoiles. Dites-nous si vous nous aimez, si vous ne nous aimez pas et pourquoi. Et enfin, suivez-nous sur les réseaux LinkedIn, Instagram, mais surtout Twitter. On est en train de tweeter plein de trucs. On a plein de tweets qui arrivent. On essaie de poster toutes les leçons qu'on apprend et qu'on met pas ici, tous les petits trucs, les petits chiffres, etc., qu'on n'a pas la possibilité de mettre en podcast parce qu'on oublie. C'est sur Twitter, allez-y, on essaie d'interagir avec plein de monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on y répondra. Et sur ce, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines, on n'a toujours pas décidé de la fréquence de publication de ces épisodes au moment où on les enregistre.
Au prochain épisode, à bientôt.